Je vous propose de partir dans le Cantique des Cantiques ce matin. C'est pas fréquent et c'est vrai que nous avons eu le privilège il y a quelque temps de l'étudier un peu plus en profondeur, hein, en étude biblique chez certains, avec certains. Et donc, bien, aujourd'hui, je vous propose de revenir un peu sur certains de ces textes. Alors, eh bien, nous allons lire trois passages qui sont à peu près les mêmes, vous allez le constater. C'est au chapitre 2 du livre du Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 16 et 17. C'est après les psaumes, après les proverbes, après l'Ecclésiaste. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. C'est la fiancée qui parle. « Mon bien-aimé, il est à moi, et moi, je suis à lui. Lui qui paie son troupeau sur les prés pleins de lys. Et quand viendra la brise à la tombée du jour, et quand s'estomperont les ombres, reviens, ô toi, mon bien-aimé, pareil à la gazelle ou à un jeune faon sur les monts escarpés. » Un peu plus loin, au chapitre 6, les versets 2 et 3. « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, versé par terre d'aromates, pour faire paître son troupeau et pour cueillir des lys dans le jardin. Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Lui qui fait paître son troupeau dans les prés pleins de lys. Et le troisième texte, qui est à peu près avec les mêmes mots, au chapitre 7, les versets 11 à 14. Moi, je suis à mon bien-aimé, et c'est moi qu'il désire. Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne. Nous passerons la nuit au milieu des hameaux et nous nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs et si leurs bourgeons sont ouverts, si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers. Là-bas, je te ferai le don de mon amour. Les mandragores exhalent leur parfum. Nous avons à nos portes des fruits exquis de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés. Nous n'allons pas nous arrêter sur tous les symboles qui sont dans ces textes poétiques, qui nous sont en partie malgré tout cachés, mystérieux, parce que nous n'avons pas cette culture juive qui permet de comprendre ce qu'il y a derrière chaque symbole. Nous allons nous arrêter sur cette dimension de l'amour qui est dans ces trois textes. L'amour. C'est l'amour qui devrait déterminer notre vie, autant pour Dieu qu'envers ceux que nous côtoyons. Sans amour, nous sommes d'accord, la vie n'est que du vent. Et Paul va plus loin encore, non pas simplement dans la mesure où, si nous manquons d'amour, nous manquons de l'essentiel, mais Paul écrit, par exemple, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Si je ne vis pas moi-même dans l'amour envers les autres, envers Dieu, je ne suis rien. Alors c'est vrai, beaucoup croient en Dieu, mais souvent il n'y a pas de place pour l'amour pour lui. Alors, eh bien, je crois qu'il est normal que notre religion rebute et même écœure. Mais de quel amour parle-t-on ? Nous avons des compréhensions différentes, des vécus différents. Le Cantique des Cantiques parle de l'amour qui unit la fiancée, la Sulamite, à son berger, son bien-aimé. Et elle exprime son amour à travers trois déclarations qui ponctuent un peu le livre du Cantique des Cantiques, mais trois déclarations qui sont un peu différentes les unes des autres. Elles dénotent en fait une croissance dans l'amour. Est-ce que rien qu'à la lecture de ces trois passages, nous avons remarqué quelques-unes de ces nuances? Alors, eh bien, je vous propose d'aller un peu plus loin, de reprendre ces déclarations d'amour par rapport à notre relation avec Dieu, d'abord, mais également aussi par rapport à nos relations avec les autres, qui devraient refléter la même réalité. Alors, il y a d'abord ce que j'appelle l'amour intérêt. Mon bien-aimé, il est à moi, et moi, je suis à lui. Ça, de l'amour intérêt, on peut au contraire trouver que c'est une bien belle déclaration d'amour. Mais comment la fiancée considère-t-elle son amour ? En premier lieu, en ce que son bien-aimé, il est à elle. Vient ensuite son appartenance à son bien-aimé. Et l'ordre, surtout en comparant avec les autres déclarations d'amour qu'elle fait, l'ordre révèle la dimension de l'amour. La priorité, c'est moi. Cela parle d'une relation d'amour, mais à travers laquelle il est possible de profiter de l'autre pour combler ses propres intérêts. Alors je crois que c'est le cas de certaines personnes, même au niveau de professions qui ont pour but d'aider les autres. La motivation du salaire peut l'emporter, par exemple, ou celle de la valorisation ou de la reconnaissance personnelle. Ce ne sont donc pas les autres qui seraient la motivation première dans certains cas. Cela peut arriver à un pasteur également, tout comme à une infirmière, ou un homme politique, ou un bénévole dans une œuvre humanitaire. Le dévouement peut être sous-tendu par un manque intérieur. Et le fait de s'intéresser aux autres peut cacher ce besoin centré sur soi. Dans ce cas, alors, je n'aime pas tant les autres pour eux-mêmes, mais pour l'effet boomerang, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour ce que ça va me rapporter à moi. Quelques exemples. Cette société m'a offert un stylo. Quelle gentillesse! Mais le but est qu'on connaisse un peu plus cette société pour que, ensuite, on achète ses produits. On peut chercher à avoir des enfants en pensant qu'on ne sera pas seul pendant la vieillesse. On peut être bon pour, en retour, recevoir des remerciements, pour ressentir dans le regard des autres « Ah, celui-là, il est gentil, il a le cœur sur la main, lui. » On peut être amoureux de quelqu'un, mais pour recevoir son amour. Dans le fonctionnement de certains couples, quand c'est l'égoïsme qui relie deux êtres humains, difficile de parler d'un amour véridique, et difficile également de penser que cette relation tiendra dans la durée. C'est vrai que certains couples peuvent fonctionner sur ce principe, mais en définitive, un amour bien fragile est celui qui consiste à profiter de l'autre, même si on fait preuve de dévouement et de gentillesse. C'est un marché entre deux parties, un peu comme les piquebœufs, vous savez, ces oiseaux qui se nourrissent des bestioles qui sont sur les buffles ou sur les rhinocéros ou sur les girafes. Ces derniers acceptent les garde-bœufs. Ils sont gentils avec eux, ils les aiment bien, mais à condition qu'ils les débarrassent de leurs bestioles, qu'ils les envahissent. C'est l'amour intérêt des deux côtés. J'aime parce que ça me rapporte. Mais est-ce un amour vrai ? Dans la relation avec Dieu, il peut exister le même rapport. Je pense à Jacob, quand il fuit son frère à qui il a volé son droit d'aînesse. Alors il passe un marché avec Dieu. « Si tu me fais réussir mon voyage, si tu me donnes la nourriture et le vêtement, alors tu seras mon Dieu. » De même, je peux être chrétien pour que Dieu me garde. Je peux vivre avec Dieu, mais en définitive, la priorité, c'est moi. Je prie pour que Dieu m'exauce. Ce sont mes intérêts qui sont ma motivation principale. Et c'est alors que nous constatons que notre amour pour Dieu peut ne pas dépasser le premier degré. Beaucoup de religions se basent sur ce but, faire agir pour rendre Dieu favorable et qu'il bénisse. Mais c'est en fait, je crois, profiter de l'amour de Dieu pour assouvir ses besoins. Où est l'amour profond pour Dieu quand j'agis en faisant le bien pour que Dieu me fasse du bien? C'était le reproche que Dieu faisait par le prophète Ésaïe au peuple d'Israël. Vous dites, que nous sert de jeûner, c'est-à-dire de faire des sacrifices physiques, se priver dans un but religieux? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas d'égard? Si Dieu ne considère même pas nos bonnes œuvres, à quoi ça sert qu'on soit bon alors? Avec tout ce que je fais pour Dieu, comment ça se fait que j'ai tant de problèmes? Mais c'est malheureusement l'appel qui est donné aussi pour attirer les personnes à Dieu, et cela beaucoup plus dans nos milieux. Convertissez-vous, tournez-vous vers lui et il vous bénira, il vous guérira, il effacera vos dettes financières, vous n'aurez plus de problèmes. Mais le centre, c'est encore une fois l'être humain. Dieu vient après. En définitive, Dieu est pour moi en premier lieu. Il est peut-être normal qu'un enfant aime de cet amour-là par intérêt. Mais quand un adulte aime Dieu ainsi, je crois qu'il manifeste, que je manifeste un manque de maturité dans la vie avec lui. On peut trouver que le fait de chercher à être bon, à plaire à Dieu, c'est déjà quand même très bien. Les pharisiens du temps de Jésus pouvaient se targuer de faire beaucoup de choses pour Dieu. Ils priaient beaucoup. Mais Jésus les traite d'hypocrites en leur disant « C'est pour les honneurs que vous faites de longues prières. » Ils sont zélés dans le témoignage, mais Jésus leur dit « Hypocrites, vous courez toute la terre pour faire un prosélyte. » C'est-à-dire de faire quelqu'un qui vous obéit, qui vous suit. Et la conclusion de Jésus est sans appel. « Race de vipères. » Comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? Quand l'amour cache l'égoïsme, la recherche des intérêts personnels, alors cela ne peut pas être l'amour selon Dieu. Mais voilà qu'il est possible de connaître une autre dimension avec la seconde déclaration d'amour de la Sulamite. C'est l'amour don. Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Donc, je vois dans cette déclaration d'amour que la fiancée passe au second plan. Son désir premier devient don. Moi, je suis à mon bien-aimé. Sa préoccupation, c'est donc de vivre pour son fiancé, de répondre à ses intérêts en premier lieu. D'abord, elle est à lui. Pour nous, cette dimension de l'amour pourrait se définir à travers ce que Paul dit, par exemple, à plusieurs reprises, il dit « L'amour ne cherche pas son intérêt ». Jésus nous invite à aimer ceux qui ne peuvent pas nous rendre la pareille pour qu'on ne les aime pas pour recevoir en retour, dit-il. « Partage ton pain » ça c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, « avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Et le verset suivant ajoute « alors ta vie en sera transformée. » Mais cela n'est pas le but principal, cela vient en conséquence. Notre but donc devrait être d'aimer en nous donnant en premier lieu, en vivant d'abord pour les autres. C'est quelqu'un qui donnait cette définition de l'amour. Aimer, c'est d'abord détruire en soi-même l'égoïsme pour substituer l'amour et ainsi devenir plus grand que soi-même. Mais voilà que le don de soi a quand même des limites qui sont quelquefois vite atteintes. Et il est nécessaire donc que Dieu fasse une œuvre profonde en nous. Dans notre relation avec Dieu, l'aimer, c'est désirer vivre avec lui et pour lui en premier lieu. C'est le don de soi au Seigneur qui caractérise l'amour. L'amour intérêt personnel, Dieu est pour moi, n'en est qu'une caricature. Laisser la foi être dominée par l'intérêt personnel, c'est passer à côté d'une relation profonde, telle que Dieu la veut. Dire « Je suis à Dieu » et « Dieu est à moi », c'est orienter la prière en disant « Je m'offre à toi, utilise-moi comme tu le voudras, fais de moi aujourd'hui ce que tu voudras, je te donne mes forces, mon temps, mon argent, mes projets ». Alors oui, face à la société où il est normal que l'on donne à condition que ça me rapporte, le chrétien est appelé à vivre dans une autre dimension, celle du don. Mais la fiancée du Cantique des Cantiques s'attend quand même à ce qu'il y ait retour sur investissement dans cette déclaration d'amour. Et mon bien-aimé est à moi. C'est quand même normal que je reçoive, même si ce sont les intérêts de l'autre qui priment. Et c'est là, je crois, que nous voyons qu'elle a découvert un troisième degré dans l'amour qu'elle peut donner à son bien-aimé. Ce troisième degré, c'est l'amour-grâce. Moi, je suis à mon bien-aimé et c'est moi qui le désire. Cette dimension de l'amour est certainement proche de la précédente, où elle dit qu'elle appartient en premier lieu à son bien-aimé. Mais voilà que lui n'est plus sa possession. Elle lui dit qu'elle ne le considère plus comme étant celui qui doit l'aimer. C'est normal puisque je t'aime. Non, elle reconnaît que c'est une grâce, un privilège de voir que ses désirs se portent vers elle. C'est sur cette base que Dieu décrit sa relation d'amour avec le peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 7. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu lui appartiennes. Tu es à lui. Ce n'est pas parce que tu surpasses les autres que l'Éternel s'est attaché à toi et qu'il t'a choisi, car tu es le plus petit d'entre tous. Mais c'est parce que l'Éternel t'aime. Dans la relation avec Dieu, il n'y a pas d'appropriation de l'amour de Dieu. Tu es amour, donc tu dois me témoigner cet amour, et de cette manière-là. Non, il n'est pas considéré comme un dû. En réfléchissant à la souveraineté de Dieu d'un côté et à ce que nous sommes de l'autre côté, comment ne pas approcher l'amour de Dieu comme un privilège que nous ne pouvons pas mériter ? Non. Le Seigneur ne peut être à nous pour répondre à nos demandes. Mais voilà, dans sa grâce, il veut nous offrir son amour. C'est bien fait. Je ne peux rien exiger de sa part, mais je sais que son désir est de me donner le meilleur. Et ce n'est donc jamais du donnant-donnant sur la base du mérite. Quel privilège de comprendre cela et de vivre cette dimension extraordinaire de l'amour. Nous sommes acceptés par Dieu. Tout m'appelle alors à vivre pour lui sans exiger de lui. Et je sais qu'il veut me témoigner son amour immérité. C'est cela qui devrait être le thermostat de notre vie, la reconnaissance de la grâce de Dieu. Elle change tout. Pour moi alors, et dans notre relation avec les autres. Oui, bien, j'ai envie de dire, oui, heureux celui qui vit dans la même dimension, en vivant pour leur intérêt sans exiger en retour. Et là, il y a une dimension surhumaine, je crois. Et de plus, vivre cette dimension, c'est un risque, celui de ne pas recevoir en retour. Mais pourtant, c'est cet amour-là qui construit, qui interpelle, parce que désintéressé, non égoïste, non exigeant. Nous pouvons demander à Dieu de nous remplir de cette volonté d'aimer de cette manière-là. En tout cas, il y a de l'espoir. Parce que lui, le Seigneur, nous aime de cet amour-là. Parce que le Seigneur veut nous aider à l'aimer et à aimer les autres de cet amour qui vient de lui. Alors peut-être que, en fait, vous ne vous êtes retrouvé dans aucune de ces catégories et vous pensez, et vous le vivez dans votre vie avec Dieu, Dieu est pour moi. Et c'est tout. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de comprendre et d'accepter l'amour gratuit de Dieu. C'est un amour qui transforme, qui pardonne, qui donne un sens à la vie, qui donne gratuitement la vie éternelle avec Dieu. En venant à la croix, on découvre cela. Je vous invite à passer un temps dans le silence où nous pourrons nous placer devant ce Dieu d'amour qui n'attend que notre amour envers lui.